Bonjour à tous et bienvenue sur BAC FM 106.1. Vous écoutez une émission animée par Anaïs Graillot, élève du lycée Jules Renard. Cette semaine est marquée par la 32e édition de la Semaine de la presse et des médias dans l'école. Et le thème de l'édition 2021 est « S'informer pour comprendre le monde ». Pour comprendre le monde qui nous entoure, nous, élèves qui devons plus que jamais apprendre à s'informer en exerçant notre esprit critique. Et pour en parler, un invité avec nous, Christophe Deloire, journaliste français et secrétaire général de Reporters sans frontières depuis 2012. Bonjour Monsieur Deloire.
Bonjour.
Alors pour commencer, pourriez-nous vous présenter brièvement votre parcours?
Moi j'ai été journaliste, j'ai fait ça à l'essentiel de ma carrière, d'abord pour la télévision, c'est une époque où on faisait encore le service national, et j'ai fait mon service national pour TF1 à Berlin, puis j'ai travaillé pour LCI Arte, j'ai été journaliste d'investigation, point, j'ai publié des livres, fait des documentaires. Et puis après, j'ai dirigé une école de journalisme qui s'appelle le Centre de formation des journalistes à Paris. Et puis, comme vous l'avez dit, depuis 2012, je dirige Reporters sans frontières, qui est une organisation qui défend la liberté de la presse. Et je viens d'un village qui n'est pas si loin de Nevers, puisqu'il est dans le département juste au sud, dans l'Allier. Et je connaissais pas de journaliste, et puis je me suis lancé, et puis j'ai eu la chance que ça marche.
Bah alors voici l'exemple d'un parcours très inspirant. Inspirant au point, je pense, d'insuffler des idées de métier chez certains jeunes. D'ailleurs, vous qui êtes secrétaire général de Reporters sans frontières, donc je l'explique pour nos auditeurs, hein, Reporters sans frontières, c'est une organisation non gouvernementale dont l'objectif est de défendre la liberté de la presse. Monsieur Deloire, quelles sont les actions justement de Reporters sans frontières pour atteindre cet objectif?
Dans nos actions, il y a celles qui sont connues publiquement, parce que on cherche à convaincre l'opinion publique ou à exercer une pression grâce aux articles, aux sujets qu'on peut avoir dans les médias, à la radio, à la télévision. Ça, c'est des campagnes de communication. On publie tous les jours des communiqués dans des langues très diverses, en français, en anglais, en espagnol, en arabe, en farsi, etc. Ça nous permet d'attirer l'attention sur des sujets sur lesquels on veut attirer l'attention. Ça nous permet aussi parfois d'introduire un rapport de force, d'essayer d'exercer une pression médiatique. Et surtout, ça nous permet de mener d'autres actions. Et les actions derrière, qui elles sont beaucoup moins publiques, c'est un, ce qu'on appelle du plaidoyer dans les ONG, c'est-à-dire c'est un travail qui consiste à aller convaincre les gens qui prennent les décisions, des responsables politiques, parfois des dirigeants d'entreprise, parfois des gens de la société civile, et d'aller les convaincre grâce à cette pression médiatique et grâce à toute une série d'arguments et en fait qui dépendent des cas. Et c'est un travail qu'on peut appeler de lobbying, on dirait aussi, qui est un travail de l'ombre. Puis il y a un autre type de travail de l'ombre qui consiste à porter assistance aux journalistes sur le terrain, créer des outils, à créer des centres pour la protection des journalistes. Et ça, RSF le fait dans beaucoup, beaucoup de pays, puisqu'on a des correspondants dans 130 pays dans le monde. Donc on est à la fois une organisation qui travaille sur le terrain, on peut envoyer des gens dans les vallées, au fond des vallées d'Afghanistan, et qui travaille aussi là où il y a des gens qui ont du pouvoir et qui peuvent prendre des décisions qui peuvent être utiles pour notre cause. Et on essaie de faire ce grand écart entre ces deux types de lieux qui sont très très différents.
Alors, vous nous dites que vous avez des correspondants en 130 pays du monde. Du coup, selon vous, le monde actuel est-il favorable à la liberté de la presse? J'ai même envie de dire, du coup, au métier même de journaliste.
Malheureusement, pas tellement. À la fois, le potentiel technologique, la facilité de communication rend le journalisme d'une certaine manière plus facile. C'est plus facile d'accéder à l'information, dans beaucoup de pays, notamment évidemment dans les pays démocratiques. C'est plus facile de raconter et c'est plus facile de s'adresser directement à son public, c'est-à-dire de diffuser très rapidement une information. La difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui, eux, sont négatifs et où on peut se dire ça part dans le mauvais sens. Et par exemple, on a publié l'an dernier notre classement mondial de la liberté de la presse, qu'on publie chaque année, mais donc pour cette dernière édition, on avait dit, pour nous, on est un peu en train d'entrer dans une décennie qui peut être décisive pour le journalisme. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de crises qui affectent le journalisme. Il y a une crise géopolitique, c'est que des pouvoirs despotiques, de plus en plus, sont en train de prendre une forme d'ascendant et de vouloir imposer leur logique, leurs règles, leur puissance. Et d'abord, évidemment, Pékin. Il y a une crise démocratique qui fait que dans les pays démocratiques, il y a une forme d'affaiblissement des démocraties, de polarisation du débat public. Il y a une crise économique des médias qui fait qu'il est de plus en plus difficile de financer du journalisme et notamment du journalisme de qualité. Il y a une crise de la confiance des gens envers les médias dans toutes les générations, mais y compris et surtout dans la vôtre. Et puis, il y a une crise technologique qui fait que qu'en fait, aujourd'hui, quand on fait du journalisme, on a comme concurrents des gens qui n'ont rien à voir avec le journalisme. Alors, c'est très bien si les journalistes sont mis en concurrence avec des gens qui débattent, qui apportent d'autres idées, d'autres visions du monde. Mais le journaliste se trouve aussi en concurrence avec des gens qui font de la publicité, qui sponsorisent l'information, qui diffusent de l'information un peu corrompue, qui diffusent de la rumeur, des propos de haine. Et aujourd'hui, ça provoque aussi un affaiblissement du journalisme. Donc, je dirais, c'est pas une excellente période. C'est une période de réinvention. Il y a quand même une chose, vous disiez que parmi vos auditeurs, peut-être il y a des gens qui ont envie de devenir journaliste. À toutes les époques, on a dit que c'était très compliqué. Et moi, j'ai dirigé une école de journalisme, j'ai toujours dit, je pense qu'il faut pas s'arrêter là. Si vraiment on a envie, ça vaut la peine d'y aller. Faut se donner du mal, faut parfois se lever tôt. C'est un métier où il y a beaucoup de gens qui ont envie de le faire et moins qui réussissent. Mais il n'y a pas besoin d'être né avec une cuillère en argent dans la bouche, d'être né avec un carnet d'adresses, de connaître plein de journalistes pour y arriver. Ceux qui y arrivent le mieux, c'est quand même ceux qui donnent le plus de mal.
Donc vous nous parliez dans votre propos d'un classement pour la liberté de la presse. Alors il y a une petite question qui me vient à l'esprit. Quel est le pays qui occupe la tête de ce classement et qui en occupe la dernière ?
Alors, le pays qui occupe la tête du classement, c'est la Norvège. En fait, de manière régulière, les pays qui arrivent en tête en matière de liberté de la presse et aussi sur d'autres indicateurs démocratiques, c'est les pays d'Europe du Nord. Ce sont des pays où la législation est meilleure qu'ailleurs, où les groupes de médias ne sont pas inféodés à des groupes industriels qui ont des intérêts dans d'autres secteurs, etc. Et où il y a un grand respect général, même s'il n'est pas parfait. Et à la fin, les trois pays qui arrivent en queue sont le Turkménistan, qui est un pays de la dictature d'Asie centrale, l'Érythrée, qui est un tout petit pays dans la corne de l'Afrique, c'est-à-dire dans l'est de l'Afrique, et où il y a un nombre de détenus politiques absolument faramineux par rapport à la taille du pays. C'est une dictature depuis 20 ans maintenant. Et la Corée du Nord, et ça ne surprendra sans doute personne, qui est le dernier pays qui est la pire dictature de la planète. Et il faut le dire, on n'est même pas en mesure, nous, de dire s'il y a des journalistes en détention, parce qu'en fait, on n'est même pas au stade où il y a des gens qui passent à l'acte de devenir journaliste. C'est un système de propagande absolue.
Du coup, vous nous dites qu'en Corée du Nord, les journalistes n'arrivent pas, en fait, à faire leur travail. Est-ce qu'il y aurait des autres pays dans ce cas-là?
Ceux que je citais, Turkménistan, Érythrée, c'est des pays où on ne peut pas apprendre, enfin, on ne peut pas faire de journalisme. En Érythrée, le père de l'indépendance, c'est-à-dire l'homme qui a été l'homme de la guerre de libération, en tout cas de la guerre d'indépendance, c'est un homme qui, subitement, en 2001, a basculé dans la dictature. Et donc, ceux qui font du journalisme, ils sont à l'étranger, ils sont en exil. Notamment en France, en Reporters sans frontières, on a créé une radio qui émettait à destination de l'Érythrée, dans la langue de l'Érythrée, qui s'appelle le Tigrinya. Si on remonte un peu dans le classement, il y a la Chine, par exemple. Et la Chine, qui est le plus grand régime despotique de la planète, qui essaie non seulement de contrôler l'information en Chine, mais de plus en plus qui veut faire changer le monde de l'information dans le monde entier, c'est quand même un pays où il y a des journalistes, il y a des gens qui connaissent les limites, qui, quand ils les franchissent, peuvent se retrouver en détention pendant longtemps, ou dans des hôtels qu'on appelle des prisons noires. Mais c'est un pays quand même dans lequel il y a aujourd'hui des journalistes d'investigation qui arrivent à pousser en fonction de ce que le pouvoir accepte, mais notamment sur les sujets économiques. Donc, y compris dans des pays comme ça, il peut y avoir des très bons journalistes. Le problème, c'est que quelquefois, ils se retrouvent au fond d'un cachot et que ceux qui ne sont pas au fond d'un cachot savent qu'ils peuvent se retrouver au fond d'un cachot et donc font très attention.
Du coup, vous venez du coup de nous parler de la Chine, là. Donc, la Chine, hein, je le rappelle pour nos auditeurs, où le droit à l'information est bafoué. Est-ce que par hasard, Reporters sans frontières n'aurait-il pas eu des directives de censure justement de la part de la Chine par rapport au classement pour la liberté de la presse, par exemple ?
Ah ben, je vois que vous êtes excellemment informé. Oui, en Chine, quand on publie par exemple notre classement mondial de la liberté de la presse, il faut arriver sur d'autres communications, le département de la propagande publie des directives qui indiquent aux médias, alors évidemment aux médias de propagande, aussi aux médias privés, de ne pas parler de tel ou tel sujet. Ça nous arrive malheureusement souvent. Il faut dire que le pouvoir chinois n'a pas apprécié la mobilisation de Reporters sans frontières au moment des Jeux Olympiques en Chine en 2008 et sont très rancuniers.
J'avais une autre question. Vous nous disiez que la Norvège était le premier pays dans ce classement. Mais cette réponse m'intrigue car le pays du premier amendement, ce n'est pas la Norvège, c'est les États-Unis. Alors qu'en est-il de la situation des journalistes aux États-Unis ?
Alors la situation, c'est un pays où effectivement le journalisme est légendaire. D'ailleurs, c'est un pays où notre manière de voir le journalisme a en partie été créée grâce aux écoles de journalisme, à la légende du journalisme d'investigation. Bref, il y a une mythologie du journalisme aux États-Unis. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les journalistes se retrouvent confrontés d'abord à une bonne partie de la population, qui a une animosité extrêmement grande, et qui dans des manifestations, dans des meetings politiques, ça a été le cas notamment dans les meetings politiques de Donald Trump, mais malheureusement, ça se poursuivra vraisemblablement après Trump, supposé qu'on soit passé dans l'après-Trump. Donc une violence très très grande contre les journalistes. Il y a eu des pratiques de Donald Trump au pouvoir qui a qualifié les journalistes d'ennemis du peuple, qui est une accusation vraiment stalinienne et qui n'a pas cessé d'essayer de dénerver les Américains, ces militants contre les journalistes. Il y a une violence qui allait très loin puisque il y a même eu dans le Maryland à Annapolis un fou furieux qui avait été énervé. Par un article qui avait été publié sur lui. Pendant des années, il a publié des insultes sur Twitter, des menaces, et puis un jour, il est passé à l'action, il a débarqué avec une arme à feu, il a tué 4 ou 5 journalistes de la rédaction. Et puis enfin, il y a des pratiques qui sont beaucoup plus larges et qui, sont pas le fait simplement des partisans de Trump, qui avaient commencé sous Obama, et dont on peut se demander si elles se poursuivront sous Biden, qui est d'utiliser des lois parfois très anciennes, notamment une loi qui s'appelle l'Espionnage Act, pour réprimer tous les journalistes qui entrent dans le secteur du secret de la défense nationale, du confidentiel défense. Et c'est un secteur qui, depuis le 11 septembre 2001, s'est beaucoup, beaucoup élargi. Et donc aujourd'hui, il y a des journalistes qui ont été poursuivis aux États-Unis pour leurs révélations, des journalistes d'investigation extrêmement sérieux, y compris du New York Times, poursuivis parce qu'ils avaient fait des révélations importantes. Et alors, il y a un nom que sans doute une bonne partie de nos auditeurs connaissent, qui est celui de Julian Assange, fondateur de WikiLeaks, qui fait l'objet d'une demande d'extradition des États-Unis. Il est aujourd'hui au Royaume-Uni, la procédure est en cours, et sur qui pèse le risque de 175 années de prison, parce qu'il a fait des révélations qui sont parmi les plus importantes de l'histoire sur les crimes de guerre commis par les États-Unis, notamment en Irak et en Afghanistan.
Donc vous nous dites qu'aux États-Unis il y a des violences contre les journalistes, mais maintenant j'aimerais qu'on parle d'un chef d'État qui a des propos beaucoup plus extrêmes que ceux de Donald Trump. Monsieur Deloire, si je vous dis l'expression suivante, vous êtes une espèce en voie de disparition, cela vous fait penser à qui ?
Alors, j'ai une méditation, mais d'abord Donald Trump est allé plus loin que ça. C'est peut-être Duterte aux Philippines, mais malheureusement il y a aujourd'hui quelques chefs d'État qui sont susceptibles de tenir ce genre de propos. Là, vous m'avez posé une petite colle, donc vous allez me dire.
Alors, je vais vous le dire tout de suite. Du coup, c'est Jair Bolsonaro. Je vais le rappeler pour nos auditeurs. Bolsonaro, donc le chef d'État d'extrême droite au Brésil, avait dit ça à des journalistes qui l'interrogeaient devant sa résidence à Brasilia en 2020. Du coup, je pense que vous sentez venir la question. Qu'en est-il de la situation des journalistes au Brésil ?
Le Brésil, c'est un pays qui était déjà très compliqué pour les journalistes, parce que dans de nombreuses régions du Brésil, dès que des journalistes enquêtaient sur des sujets sensibles, liés à la déforestation, par exemple en Amazonie, ils encouraient des risques. C'est un pays aussi où l'information est sous contrôle de responsables politiques locaux. Il y a un phénomène qu'on appelle le coronélisme, qui est le fait que vous avez des patrons de médias qui sont aussi des gouverneurs ou qui ont des postes politiques importants au niveau local et qui maîtrisent complètement l'information. C'est aussi un pays dans lequel des groupes religieux, c'est notamment évangéliques, possèdent une partie non négligeable des médias et en contrôle la ligne éditoriale. Et c'est rajouté à ça, effectivement, ce Trump brésilien, qui est Jair Bolsonaro, dont la famille, parce qu'il y a lui, il y a ses fils, il y a son entourage, mais qui passent leur temps à attaquer les journalistes, y compris par exemple les journalistes qui enquêtent sur le traitement du Covid par les autorités brésiliennes, qui n'est franchement pas brillant. Bolsonaro vient de la semaine dernière, je crois, ou il y a deux semaines, son quatrième ministre de la Santé depuis le début de l'épidémie de Covid. Et Bolsonaro, pour camoufler ses insuffisances, ses incompétences, s'adresse effectivement avec une violence verbale extrêmement grande face aux journalistes.
Merci beaucoup du coup pour votre explication. Alors suite à vos brillantes explications, je vais laisser nos auditeurs avec une courte pause musicale. Donc vous allez écouter Journaliste en danger, une chanson de 2001 de l'artiste Alpha Blondie, dont le titre est le reflet même du message que veut faire par cet artiste.
Au clair de la lune, mon ami Zongo refusa de bâillonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. Entre le marteau et l'enclume, les plumes se barricadent derrière leur une. La liberté y a laissé des plumes. Journaliste incarcéré, journaliste assassiné. Les voix des sans-voix tués, tout ça doit changer. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, c'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, ça se passe comme ça. Les gouvernants font la pluie et le beau temps. Le peuple meurtri fait semblant d'être content. Une rafale de mitraillettes balaya le président. C'est un regrettable accident, le même rituel sanglant. Autant en emporte le vent, le sang appelle le sang. Ça se passe toujours comme ça. lune, mon ami Zongo.
Nous nous retrouvons après cette pause musicale pleine d'émotions. Et du coup, nous parlions avant cette petite pause musicale de la situation des journalistes au Brésil. Alors, Monsieur Deloire, j'ai envie de vous demander quels seraient les trois pays où être journaliste n'est vraiment pas favorable, mais à l'heure actuelle.
C'est par nature les pays en fin de classement mondial de la liberté de la presse, ceux dont on parlait tout à l'heure. Et le continent où ça va le mieux, c'est l'Europe. Mais même en Europe, il y a des pays où c'est de plus en plus dur d'exercer le journalisme. Par exemple, parce qu'il y a des politiques d'État qui visent à lutter contre le journalisme, et c'est le cas par exemple en Pologne et en Hongrie. Et dans d'autres, c'est parce que si vous êtes journaliste, si vous faites des enquêtes, ben vous avez face à vous la mafia, des trafiquants, des hommes politiques véreux, et des journalistes ont été assassinés ces dernières années sur le continent européen, sur une petite île, Malte, qui est l'un des États membres de l'Union européenne. Une journaliste d'investigation, Daphne Caruana Galizia, a été assassinée parce qu'elle gênait le pouvoir, et les ramifications remontent jusqu'au cabinet du Premier ministre de l'époque. Quel scandale dans un pays européen, ou en Slovaquie, où un journaliste de données, un jeune homme, a été tué avec son ami parce qu'il faisait des enquêtes en comparant des rapports de l'Union européenne et des rapports dans son pays et arrivait à trouver les fuites, la corruption, les malversations. Il a été assassiné aussi, manifestement à l'instigation d'hommes d'affaires véreux. Bref, c'est compliqué, y compris sur le territoire européen. Alors après, il y a quand même une chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il ne faut pas du tout comparer la situation en France, par exemple, et dans des pays comme la Chine, la Turquie, le Brésil, etc. La France n'est que 34e sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse, mais elle est quand même 34e. Il y a beaucoup plus de pays où c'est pire que de pays où c'est mieux.
Du coup, vous nous parlez de la France, vous m'intriguez. Faisons un petit zoom sur la France. Quelle est la situation des journalistes en France?
Elle est beaucoup plus satisfaisante, je le disais, que dans la plupart des pays du monde, mais il y a beaucoup de problèmes quand même. Il y a des problèmes très différents. La population, par exemple, quand on regarde les sondages, est très concernée, très inquiétée par le fait que bon nombre de groupes de médias appartiennent à des groupes industriels ou à des hommes d'affaires qui ont des intérêts dans d'autres secteurs de l'économie, et ça fait peser une menace sur l'indépendance éditoriale. Et par ailleurs, vraiment à l'autre bout du spectre, il y a une violence contre les journalistes, il y a des pratiques de violence policière, qui ne sont pas simplement des incidents isolés, mais lors des manifestations, il y a des violences parfois très graves qui sont perpétrées par les forces de l'ordre contre des manifestants, mais aussi et notamment contre des journalistes. Et parfois, c'est des manifestants eux-mêmes qui s'en prennent les journalistes. On l'a vu pendant les manifestations des Gilets jaunes, où l'équipe de télévision a été littéralement lynchée à Rouen, et où les journalistes se sentaient en danger dans les manifestations. C'est un pays, la France, où il y a des combats à mener pour une meilleure liberté de la presse. J'ai cité que deux sujets, mais il y en a évidemment d'autres.
Et quels sont-ils ?
Par exemple, la législation sur la protection des sources, la protection du secret des sources des journalistes, n'est pas satisfaisante. C'est-à-dire, aujourd'hui, un policier, un magistrat, peut mettre sur écoute un journaliste, tenter d'identifier ses sources de manière directe, en se fondant sur un motif qui justifie une exception au principe du secret, qui s'appelle l'impératif prépondérant d'intérêt public. Donc, en gros, c'est très facile aujourd'hui de violer le secret des sources d'un journaliste. Et non seulement c'est facile, mais en plus, il n'y a pas à demander d'autorisation à une cour particulière ou à faire un appel particulier. Et en plus, quand vous ne respectez pas la loi, policier, magistrat, membre des services de renseignement, si vous êtes en infraction avec la loi, au fond, on ne peut rien vous reprocher. C'est-à-dire, on peut vous reprocher sur le plan moral de ne pas avoir respecté la loi, mais judiciairement, il n'y a pas de sanction. Et donc, il faut absolument que cette législation soit modifiée. C'est un enjeu essentiel, la protection du secret des sources des journalistes. François Hollande, quand il était le président de la République, avait après beaucoup de temps, tenu une promesse en faisant modifier la loi. Malheureusement, le Conseil constitutionnel, qui est cet organe qui vérifie la conformité des lois à la Constitution, avait jugé, pour des motifs qu'on n'a pas beaucoup compris, que cette réforme, qui était pourtant très positive, n'était pas constitutionnelle. Donc on reste dans une situation, et une loi qui remonte à 2010 et qui n'est pas satisfaisante du tout.
D'accord, alors je le rappelle pour les auditeurs qui viennent d'arriver, nous parlions de la Chine précédemment. Donc nous disions que en Chine, le droit à l'information était bafoué. Mais en Russie, l'information est carrément manipulée par le Kremlin. Monsieur Deloire, est-ce que vous pourriez nous parler du coup de la situation des journalistes russes ?
Alors, c'est un pays où il y a toujours des médias indépendants. Novaya Gazeta, par exemple, qui est un journal extrêmement connu, celui d'une célèbre journaliste qui s'appelait Anna Politkovskaya, qui était assassinée, une chaîne de télévision qui s'appelle Doge, il y en a quelques-uns. Mais le Kremlin, c'est-à-dire le pouvoir russe, a réussi à faire en sorte que ces médias ils soient très peu nombreux et affaiblis. Ils existent toujours, ils ne sont pas totalement interdits, mais on fait en sorte que ce soit vraiment tout petit, comme ça, il y a une apparence de pluralisme, mais en réalité, le système médiatique, il est largement tenu. Il est tenu parce qu'il y a des médias proches du Kremlin, tenus d'une manière ou d'une autre par le Kremlin. Il est tenu par des lois qui ont été adoptées au fil du temps, notamment plus récemment le fait que les journalistes peuvent être assimilés à des agents de l'étranger s'il y a un financement ou un élément qui est trouvé, ça va très loin sur la proximité avec des étrangers. Bref, c'est un pays dans lequel le pouvoir arrive de manière assez aisée à faire passer des informations qui sont parfois totalement fausses, extravagantes, des montages sur des chaînes, et notamment des chaînes d'État, mais pas seulement. Et donc on fait vivre un peu quand même les Russes dans une bulle de propagande, c'est-à-dire qu'il y a des médias internationaux russes qui présentent une vision différente de ce que peuvent être des médias internationaux américains ou européens, français, ça c'est tout à fait légitime évidemment. Mais la question c'est que là souvent il s'agit de médias qui sont créés dans une logique de militarisation de l'information, ou même des guerres de l'information, qui peuvent être menées avec des attaques informatiques, des trolls, des armées de désinformation, mais aussi parfois avec des médias. Et ça, c'est une logique qui est évidemment extrêmement dangereuse.
Merci beaucoup pour votre explication. Je le rappelle pour nos auditeurs, Reporters sans frontières appelle les autorités algériennes à ouvrir une enquête pour identifier les personnes qui ont agressé une dizaine de journalistes lors d'une manifestation à Alger et du coup les poursuivre en justice. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le sujet ?
En fait, la situation en Algérie, elle est très, très dégradée. Elle s'est dégradée au cours des dernières années. Le pays a perdu 25 places en quelques années au classement mondial de la liberté de la presse. Notre propre correspondant, Khaled Rahimi, a été incarcéré près d'un an. Il a été libéré il y a quelques semaines au milieu d'une décision du président d'une amnistie de 60 prisonniers d'opinion. À 60, ça a été en tout cas le chiffre officiel annoncé, la réalité c'est aussi un peu en dessous. Bref, c'est un pays où l'information est largement sous contrôle et où toute critique des autorités est perçue comme une entreprise de colonisation ou de manipulation, de volonté de porter atteinte à la stabilité du pays. Quand je dis c'est perçu, c'est en tout cas le prétexte qui est utilisé pour combattre le journalisme. Et le phénomène était renforcé du fait qu'il y a des manifestations, un mouvement populaire, pacifique, qui s'appelle le IRAK, des mouvements qui avaient été un peu interrompus par l'épidémie de Covid, mais qui est en train de reprendre, et ça, les autorités algériennes ne supportent pas que des journalistes puissent couvrir ces manifestations normalement. Et donc, par ailleurs, il y a eu ces violences que vous avez décrites. Et donc c'est un pays qui malheureusement ne va pas tellement dans le sens de l'histoire. Quand je dis le pays, je parle du régime sur ces questions, et c'est dommageable d'abord pour les Algériens et pour l'Algérie.
Alors j'ai envie qu'on revienne aussi sur une autre situation. Alors je le rappelle pour nos auditeurs, bien sûr, Reporters sans frontières alerte sur les risques de voir la nouvelle dictature birmane reprendre les terribles méthodes de persécution utilisées contre les médias et les journalistes par la junte au pouvoir entre 1967 et 2011. Du coup, pourriez-vous nous éclairer un peu plus sur le sujet ?
Mais je vais vous parler d'un homme que j'ai rencontré, ça fait plusieurs années, il est mort maintenant, il s'appelait Win Thin. Et Win Thin, c'était un journaliste birman, il était aussi proche de la prix Nobel Aung San Suu Kyi, la fameuse dame de Rangoon, même s'il était indépendant d'elle, et donc il participait au mouvement pro-démocratie. Et parce qu'il était journaliste, parce qu'il avait fait son métier avec indépendance d'esprit, il a fait 19 ans de prison. Où on lui a fait des tortures que je décrirai pas à l'antenne, parce qu'on peut pas les décrire à l'antenne. Je citerai une chose, c'est le fait qu'il a été enfermé dans des cages à chien. Et que la junte birmane, qui a régné sur le pays pendant quand même 40 ans, elle enfermait les journalistes dans des cages à chien. Il y a une période de démocratie relative, puisque la junte a gardé le pouvoir sur un certain nombre de ministères régaliens, l'armée et l'intérieur. La junte, surtout, avait accédé à une forme de revendication démocratique pour préserver ses intérêts économiques, mais là, elle est en train de revenir. Et ce sont les mêmes militaires, en tout cas, c'est la même junte qui tente de revenir au pouvoir. Et donc, quand on a en tête ce qui a pu se passer dans ce pays, on peut être extrêmement inquiet et espérer que les pressions internationales, y compris le faux, celle de Pékin, puisque la Chine a évidemment une grosse influence sur la Birmanie, finissent par mettre fin à ce coup d'État qui a été perpétré par la junte.
Merci beaucoup, Monsieur Deloire. Alors, suite à cette réponse émouvante que vous nous avez faite, j'aimerais revenir du coup sur des questions un peu plus légères. Donc, vu que c'est une émission spéciale sur la semaine de la presse et des médias dans l'école, vous, que pensez-vous des médias scolaires tels que la radio Bac FM ?
Alors, je ne vais pas le dire pour vous faire plaisir. Moi, je connais un peu l'histoire de Bac FM, qui est une histoire maintenant longue, et d'avoir réussi à tenir l'antenne pendant aussi longtemps, et c'est pas fini, j'espère que ça va durer encore longtemps, d'arriver à faire en sorte pour des jeunes gens comme vous de faire de la radio. Moi, franchement, je suis épaté, et je dois vous dire que moi, dans mon lycée, j'ai jamais participé à un journal lycéen, j'ai pas eu l'idée d'en lancer un, j'ai pas fait de radio, je crois que j'étais allé visiter une fois une radio FM. Et donc, je suis vraiment, sincèrement, et je dis pas ça pour être poli, mais très très épaté par ce que vous faites. Et quels que soient les métiers que vous ferez plus tard, je trouve que voilà, vous organisez du débat, de la réflexion, de la délibération. Et c'est ce qui fait qu'une société tient au-delà même de la question d'un système démocratique. Donc voilà, bravo, continuez. Si on peut faire quelque chose, on soutiendra.
Eh bien, merci beaucoup pour ces belles paroles. J'avais une dernière petite question pour vous. Est-ce que pour vous, l'utilisation des réseaux sociaux a eu un impact quelconque sur la liberté de la presse, la liberté d'expression ou bien même le métier de journaliste ?
Au début, tout le monde s'est dit c'est formidable. Ça va ouvrir la communication, le potentiel, tout ça. Et puis maintenant, il y a une inquiétude quand même très forte sur est-ce que les réseaux sociaux vont finir par venir à bout de la démocratie. Et je crois qu'il faut qu'aujourd'hui, on ait l'optimisme de l'action, c'est-à-dire qu'on a envie de faire en sorte que les réseaux sociaux qui apportent beaucoup, qui permettent à chacun de communiquer, ce qu'on appelle la communication horizontale, qui permet aux gens de communiquer directement entre eux, que cette fertilité, cette énergie du débat, elle perdure, mais aussi que la fiabilité de l'information, le pluralisme soit promu et que les débats, au lieu de finir en semblant de guerre civile virtuelle pour l'instant, finissent plutôt en réflexion large et ouverte. Internet, c'est un peu neutre, on peut en faire des choses très bien, comme on peut en faire des choses très mal. La question, c'est de décider ce qu'on veut en faire.
Alors, merci beaucoup, Christophe Deloire. Auriez-vous quelque chose à rajouter, un message, une idée que vous voudriez transmettre à nos auditeurs ?
Peut-être revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de pas, pour ceux qui ont envie de devenir journaliste, et je pense que ça vaut pour d'autres métiers, ça vaut pas que pour le journalisme, mais parfois, on entend... vous savez, les gens sérieux vous dire « Oh là là, c'est trop difficile, n'y allez pas, c'est pas fait pour vous, c'est fait pour d'autres. » Moi, je pense que ceux qui ont réussi, c'est d'abord ceux qui ont résisté à tous ces messages négatifs. Et il faut pas être irréaliste, ça marche pas à tous les coups. Mais en tout cas, quand on a vraiment envie de quelque chose, ça vaut la peine d'essayer de pas s'arrêter à la première personne qui vous dit « Oh là là, c'est pas fait pour toi. »
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Deloire. Nous finissons donc cette interview sur cette dernière parole de Christophe Deloire. Je vous remercie beaucoup. de nous avoir accordé de votre précieux temps.
Merci à vous, Anaïs.
Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Et à très bientôt sur Beck FM et bonne journée.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.